Interview BO par Benoît Bazerico.
Je suis avec la réalisatrice Lucie Borletot et son compositeur Pierre Desprat pour À mon seul désir, avec Zita Enro, Louise Chevillotte, Laure Giappiconi, en salle le 5 avril. C'est l'histoire donc de Aurore, Louise Chevillotte, qui découvre le monde du striptease en se faisant embaucher dans un club, et elle y rencontre Mia, Zita Enro, et c'est le coup de foudre. C'est un film qui est à la fois donc en immersion dans le monde de la nuit, sur le monde du spectacle, avec cette sensualité inhérente, et puis en même temps une histoire d'amour, cette dimension romantique aussi qui est très forte dans le film. Alors Lucie, qu'est-ce qui a été le point de départ ? Est-ce que c'est cette idée justement du lieu ?
Oui, absolument. Je pense que c'est le lieu et c'est la fascination sans doute depuis très longtemps pour la figure de la danseuse légère, aussi la nudité même dans l'histoire de l'art, c'est-à-dire les femmes nues depuis très longtemps sont au centre des représentations culturelles. Et je trouve que c'était assez réjouissant de se servir d'un lieu qui existe vraiment, un lieu donc ce club de striptease, ce théâtre érotique, pour me coltiner à tout cela. Voilà, ça a été une rencontre après avec des personnes qui ont travaillé en club, et puis beaucoup de recherches, beaucoup de travail avant de se lancer vraiment dans l'écriture de la fiction.
Alors évidemment, qui dit club de striptease dit musique intradigétique, comme on dit. Est-ce que c'est d'abord cette musique qui a été travaillée ?
Eh bien, je pense que avec Pierre, il pourra en témoigner. On s'est parlé vraiment très en amont. Sachant que je lui ai fait lire 2 ans avant le tournage à peu près le scénario. Et donc, même si évidemment le choix des musiques préexistantes a été très important pour les numéros, etc. Le travail avec Pierre a commencé très tôt et on a tout de suite rêvé à des choses qui sont dans le film. C'est vrai que je me souviens que ce qui t'avait plu dans le scénario, c'était l'histoire d'amour avec ton petit cœur d'artichaut. Tu as composé des choses pour certains numéros qu'on a créés spécialement pour le film. Mais on s'était dit que notre musique à nous, enfin celle que toi, tu allais faire pour le film, elle serait plus la partition des personnages et de l'histoire d'amour. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, c'est vrai qu'on a été tout le temps en échange. Il me semble que je t'ai envoyé tout ce qu'on avait un peu présélectionné en musique préexistante avant le tournage, ce qui te permettait de voir que c'était un très très large spectre aussi.
Ouais.
Et c'était très différent de notre travail sur notre premier film qu'on a fait ensemble, qui s'appelait Chanson Douce, et qui est quand même un film. C'était un travail de thriller en fait, de musique pour faire peur. Là, on était vraiment sur quelque chose de beaucoup plus romantique et en même temps lié à une circulation de la musique contemporaine très éclectique, qui est d'ailleurs ce que j'entends moi dans les jeunes gens. Les jeunes gens, ils disent plus du tout qu'ils aiment un style de musique. En général, ils aiment toutes les époques, tous les styles, et c'est vraiment ce que font les danseuses dans le club et ce qu'on a fait. Et donc, c'est vrai que la musique composée par Pierre, elle quelque part, tout était possible, quoi. Il n'y avait pas un truc univoque.
Là, c'est marrant, j'ai un peu une impression où, un peu inverse, à savoir qu'en découvrant la playlist,
ouais,
en découvrant la variété musicale et le fait qu'énormément de choses étaient prises en charge par la musique intradiégétique, finalement, le spectre de la musique originale allait être un univers assez... on se l'est dit, hein, c'est le lyrisme, oui, la bulle romantique, comment on suspend un peu... ce continuum musical, musique électronique, samba, musique de numéros, par le sentiment amoureux, et du coup, on est de suite dans des cordes en trémolo, et voilà. Et il fallait par contre que ça, qu'il y ait une sorte de porosité. Enfin, l'idée de la porosité la plus simple, c'était quand même, vu que tu as demandé à Julia, donc Rebecca Warrior, de composer des titres, c'était de repartir de titres originaux qui ont été faits pour les numéros, pour essayer de tisser un fil vers la bulle amoureuse des deux personnages, ce qu'on fait dans une séquence, quoi. Il y a une séquence.
J'étais ouverte sur le style et le type d'instrument utilisé, tu vois. Là où, ouais, j'avais l'impression que sur Chanson Douce, on avait trouvé un peu par le type d'instrument, on avait cherché des choses un peu étranges, un peu, ouais, enfantines. Là, pour moi, toi, tu savais peut-être déjà, mais moi, j'avais pas d'idée préconçue. J'avais l'impression que tout était possible. On a trouvé notre voie, beaucoup par effectivement des cordes.
C'était le truc que j'aimais le moins au final que t'as utilisé, sur lequel on a tissé le plus de choses au début. C'était le truc sur lequel j'étais le plus sceptique. Je me disais quand même. Et au final, ça marche super bien.
Comme je suis nulle en musique, je sais jamais dire avant. Enfin, j'ai pas fait du tout d'études de ça et tout. Et je sais jamais dire avant avec des mots. Pierre, il est très gentil avec moi parce qu'il comprend bien ça. Il me fait écouter des trucs très différents. Et donc, on se parle vraiment de musique sur des essais concrets, quoi. Mmh. On n'est pas du tout dans l'espace de référence, de théorie. Et c'est ça qui marche, effectivement, pour moi. La musique en général, elle est vraiment composée pendant le montage. Sauf les petites chose que tu as fait pour les numéros quand même, mais ça c'était oui, un peu rigolo.
Lucie Borloteau, c'est votre troisième long métrage. Vous avez aussi réalisé une série, Cannabis, beaucoup de courts métrages. Mais c'est la première fois que vous retrouvez un compositeur, comme on l'a dit après Chanson douce. Est-ce que le fait de retrouver Pierre Desprats pour une deuxième fois, est-ce que ça économise des mots? Vous vous connaissez, vous savez où vous allez directement. Voilà, le fait de retrouver, parce que voilà, les tandems de musique de film, c'est quelque chose qui a constitué l'histoire du cinéma. Et là, maintenant, vous commencez à en constituer. Quel est votre regard, Lucie, là-dessus?
Ah bah moi, c'est sûr que je trouve que c'est hyper simple de travailler avec des gens qu'on connaît et avec qui on s'entend bien. Enfin, je veux dire, à tous les postes, et particulièrement à celui-là qui, encore une fois, pour moi, était un endroit d'angoisse et de non-confiance. Parce que, voilà, pendant des années, quoi, je ne voulais pas du tout travailler avec des compositeurs de musique. Je m'en méfiais. Et maintenant, je me sens tout à fait en confiance aussi parce qu'on a eu cette première collaboration et j'espère bien qu'il va y en avoir d'autres. Enfin, vous voyez, je suis tranquille maintenant avec ça, quoi. J'ai l'impression d'avoir trouvé mon gars.
Et surtout qu'après Chanson douce, hein, où Karine Viard incarnait cette étrange, maléfique nounou, ici, on est dans un autre registre. Donc, il y a aussi cette idée, pas forcément de tracer un même sillon, mais aller aussi ailleurs.
Je suis pas sûr que ça fasse vraiment des grands écarts. J'ai l'impression que, au contraire, il y a quelque chose de cohérent entre Chanson douce et À mon seul désir. La musique est différente, mais je trouve que le rapport au cinéma de Lucie, je retrouve un peu le même, à savoir faire des espèces de films monde, où c'est une histoire que je trouve simple, mais dans les bons sens du terme, à savoir un thriller, un personnage déviant qui va détruire un intérieur, une famille, ou une histoire d'amour, deux femmes se rencontrent, tombent amoureuses. Je trouve que Lucie a une manière de filmer le monde, à savoir les gestes de la danse, les gestes de la nounou, et une grosse attention à tous ces petits détails. Et du coup, en fait, je trouve énormément d'analogies entre les deux films, même si dans l'esthétique musicale, c'est assez différent. Et du coup, je trouve que dans le rapport à la composition et à ce qu'on attend de la musique, je retrouve une certaine homogénéité dans où se place la musique et ce qu'elle apporte d'intériorité au personnage.
Et c'est vrai que je crois qu'on est quand même beaucoup dans un rapport émotionnel au personnage et à la musique, celle que tu fais toi, quoi. Enfin, la place que prend ta musique dans mes films, pour moi, elle est très sensuelle, en fait. Elle est très sensorielle. Elle doit attraper le spectateur et l'emmener dans les sentiments du personnage, que ce soit effectivement l'angoisse, la solitude. Dans Chanson douce, c'est là plutôt le cœur qui s'emballe, la déception, enfin voilà, toutes ces choses où je trouve que la musique nous passe par-dessus, enfin rentre, coule dans nos veines, quoi, nous emporte.
Et c'est vrai qu'il y a une dimension dans les deux films, une dimension mentale dans la musique, qui est presque le reflet d'un fantasme, et cette dimension sentimentale. Donc on a cette part de musique éthérée, comme ça, qui invente un monde mental. Et puis en même temps, Pierre Desprats, il y a un morceau jazz qui intègre pleinement la dimension romantique.
La partie un peu amusante que je rangerai un peu dans la case du travail de compositeur ou de compositrice qui est un travail d'acteur. C'est-à-dire, on est aussi d'une certaine manière dirigé et amené un petit peu comme des performeurs à essayer des choses qu'on n'essayerait pas naturellement et où la metteuse en scène nous amène en nous disant « Tiens, fais une reprise de Casse-Noisette en version tech » ou « On a besoin d'une bossa nova. » Et moi, clairement, après, comme Lucie, c'est-à-dire, je ne suis pas allé à l'école de musique. Donc, du coup, écrire un morceau avec des couleurs jazz et des styles d'accords très bossa, ben, ça a été un peu une découverte. Et je me dis que prendre un interprète et lui faire jouer différentes choses, ben, le fait que ce soit mis dans un seul corps d'interprète, ça va créer une sorte d'homogénéité dans le film.
Le propre de la musique de film, très souvent, c'est de convoquer une part invisible, compléter le film. Et je trouve que cette musique, elle complète aussi dans un aspect fantastique. Il y a quelque chose de l'ordre du conte dans le film, et la musique l'amène beaucoup.
Absolument. Même au-delà de la musique, même avec l'image et tout ça, tout ce qu'on a pu faire pour aller du côté du conte et du romanesque, on l'a fait. Et donc, ouais. C'est sûr que la partition musicale, la musique originale, elle compte à fond pour ça, même dans le choix des musiques, d'ailleurs, préexistantes. Hein. Il y a finalement assez peu de musique qu'on aurait imaginé dans un club de striptease, je pense. Et c'est vrai que par rapport à ça, aussi par rapport au fait que les gens s'attendent à voir un film où on va voir beaucoup de sexe, beaucoup de corps, etc. C'est amusant parce que les gens sont souvent beaucoup plus à se dire, mais en fait, c'est très sentimental, quoi. Et c'est sûr que la musique, elle emporte ça aussi, quoi. Le côté, il y a un côté conte pour adultes, et il y a vraiment un côté romance, quoi. Je peux pas dire mieux. Et c'est vrai que il y a aussi une dimension fantastique puisque le personnage a des visions. Que vous verrez si vous allez voir le film. Le personnage a des visions et ça, on l'a tout de suite accompagné d'une musique qui, moi, me faisait même penser à, je sais pas ce qu'on peut trouver dans les dessins animés japonais, par exemple, quand c'est très réussi. Enfin, vraiment l'idée que le merveilleux est au coin de la rue.
Ouais, en tout cas, moi, c'était la partie séduisante qui est que l'élan amoureux a quelque chose d'absolument magique, suspendu et pur à un endroit qui est absolument, on pourrait le dire inverse, quoi, c'est-à-dire marchandisation des corps, faux spectacle. Et du coup, j'aime bien que le fait que le film fasse la rencontre des deux, à savoir non seulement il y a de la pureté dans ces numéros des feuillages, et il y a aussi beaucoup d'impureté dans le sentiment amoureux, quoi.
L'idée d'une certaine magie me semble tout à fait juste.
est vraiment en immersion, on découvre, on a vraiment, voilà, c'est le premier plaisir de spectateur de découvrir un lieu comme cela qu'on n'a pas forcément fréquenté. Deuxième chose, c'est la dimension sentimentale, moi qui m'a vraiment très vite cueilli, vraiment la romance. Il y a aussi l'idée très actuelle, presque politique, de se poser la question du désir, d'assumer son désir, la frontière entre la morale et le désir, et puis c'est très très beau aussi la manière dont il est question de, à un moment donné, on n'est plus dans le désir, on est dans la soumission. Donc il y a quelque chose comme ça de très très actuel. Et puis enfin, l'autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on est avec cette horreur, avec voilà Louise Chevaillotte, que j'avais beaucoup aimé déjà chez Sivérac, et que là, vraiment, elle est éclatante dans ce film, et on est avec elle, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un récit initiatique, et finalement, on apprend du récit quasiment en même temps qu'elle, on est vraiment avec elle. Est-ce que en musique, il y avait aussi cette idée d'épouser son récit initiatique, d'avoir cette évolution, cette progression?
En gros, la première fois que Aurore arrive dans le club, elle a une sorte de choc, quoi, de choc de liberté, puis ensuite dans une sorte de choc amoureux avec Mia. Et ce choc-là, il est habillé par un souvenir musical, quoi, la musique du club. Et du coup, l'idée, c'était que cette chose-là nourrisse la bulle amoureuse musicale et frémissante. La musique accompagne l'histoire d'amour, à savoir le frémissement, la chaleur, et puis ensuite bah, le moment où ça se délite. C'est ça qui m'intéresse un peu, c'est le moment du premier choc, quoi. Quand on entre à un endroit, il se passe quelque chose d'absolument fou, ça transverse. Et donc du coup, c'était plutôt comment la musique du club nourrit la musique originale et la musique intérieure.
Donc Rebecca Warrior, hein, qu'on connaît dans les albums, et qui a fait quelques chansons originales, notamment « À mon seul désir ». Pierre Desprats, vous avez aussi participé, comment ça s'est travaillé? Parce qu'on entend souvent en fil rouge cette voix très cotonneuse, hein, qui reprend le titre du film.
Lucie a travaillé avec Julia sur deux morceaux pour deux numéros.
Moi, j'avais demandé deux titres qui était plutôt pour des numéros, un qui était vraiment dans la veine Sushi, le morceau Club Eternity, Laissez-moi dans ce club pour l'éternité, ou enfin, moi je pouvais pas rêver mieux, j'ai fait plein d'essais de strip, mais d'avoir une chanson qui est pile pour notre club et notre histoire, c'était vraiment dément, quoi. Et ensuite, tu avais dit pour une autre, à la base, ça devait être pour un numéro où Aurore est malheureuse, pleure et tout ça, elle se sent seule, qui est finalement pas dans le film. Je lui ai dit, j'aimerais bien un truc un peu plus dans la veine de tes autres groupe, notamment Mansfieldia, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus mignon, une balade romantique d'amour raté, quoi. Et donc, elle a écrit ce morceau en utilisant le titre du film. Et vraiment, pour moi, c'est assez inconscient, je pense, parce que je suis une vieille Nantaise quand même, je suis de Nantes, mais c'est vraiment Jacques Demy, quoi. Pour moi, cette séquence, quand on a décidé de faire cette séquence en utilisant ce morceau, je me suis dit, OK, on y va, on filme, on multiplie les plans, on fait une plongée totale, on y va, quoi. On sort, on lâche tout. et effectivement, du coup, sur cette chanson, Pierre a travaillé aux arrangements et il y a eu cette porosité avec toute la partition romantique de tout le film. Aussi parce qu'ils se connaissaient, en fait. Parce que vous connaissiez, vous aviez travaillé ensemble. C'est vrai que c'était quand même pratique.
L'arrangement, ça a été de changer complètement la couleur du morceau, quoi. Rebecca avait fait un morceau assez tourmenté. Et l'arrangement, ça a été de garder la mélodie, les paroles et la structure du morceau, mais de le rendre plus lumineux, plus suspendu, pour donner une espèce de piste de possibilité de retrouvailles, quoi. Et de les faire tendre vers « Ah, il faut qu'elle se retrouve ».
Pour un maximum de nostalgie. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur Aurore, la musique est aussi un peu en avance sur elle. C'est-à-dire qu'elle ne se rend pas du tout compte qu'il peut y avoir de l'amour au début. Et je pense que selon les spectatrices, les spectateurs, on ne vit pas du tout de la même façon cette histoire d'amour. Ça peut être une vraie surprise. Mais j'ai toujours trouvé ça intéressant que la musique nous donne des petits indices, des choses. Bah, c'est des choses qu'on ne voit pas, en fait. C'est toujours pareil. Quoi. C'est toujours ce truc de faire appel à notre sixième sens, à notre sensualité. Et je trouve ça cool que la musique soit un peu en avance sur elle, y compris quand ça va pas, quand elles vont se rater. La morale qui est amorale, enfin, je veux pas de jugement, jamais les juger, quoi. Que ce soit sur l'histoire qui arrive au personnage plus intime que sur effectivement bah, le club, en fait, le fait de choisir de montrer son corps et d'être payé pour ça. Je pense que ça irrigue tout, en fait. Ça irrigue aussi la musique du film. Puisque il n'y a pas d'ironie, il n'y a pas de violence, il y a quelque chose de beaucoup plus complexe et ambigu que ça.
Ce sur quoi on essaye de lutter d'une manière générale, c'est les rapports de domination, quoi. Enfin, c'est un peu ça l'élément avec lequel on est en friction. La morale, c'est la poussière qui cache les rapports de domination, quoi.
Complètement d'accord avec toi. Et moi, ce que j'adore dans cette histoire d'amour, c'est justement que il n'y a jamais une question de qui va gagner, qui va l'emporter, et de personnes qui rentreraient en conflit et qui seraient excitées parce qu'elle est trop forte. Nanana. Non, elles sont vraiment sur un pied d'égalité, elles sont différentes et elles vont apprendre à se découvrir. Et l'amour peut naître de ça, en fait, et pas forcément d'un désir pourri, comme on l'a vu tellement souvent au cinéma, avec des meufs qui sont en chien derrière des gens qui leur veulent du mal, en fait. On le voit depuis le début. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose... Je veux dire, on l'a toutes vécu ou tous vécu, mais on n'est pas obligé de raconter que ces histoires-là. Et il y a d'autres passions à raconter que ça, et qui sont quand même des passions, en fait, et c'est qui ça. Nous dévorent, mais pas sur ce rapport de merde, en fait.
Et justement, le film aurait pu, ce qu'il n'est pas, mais il aurait pu virer thriller où on a peur pour elle, où on se demande de voilà quel tel client, il va peut-être mal agir. Et la musique aurait pu aussi soutenir cet aspect thriller. Et là, pas du tout. La musique participe pleinement à la bienveillance environnante, quoi.
Tout à fait.
Une petite parenthèse, Pierre Desprats, parce que le hasard du calendrier veut que est sorti le 22 mars l'Éden qu'on avait pu découvrir à Cannes sous le titre La Raoria de Andrés Ramírez Bulito. Donc voilà, Pierre Desprats, musique de ce thriller colombien à découvrir dans les salles également, et puis interview sur Cinésic à relire actuellement. Voilà pour la parenthèse.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà,
ah, c'est vrai.
On s'était vu à Cannes sur ce film, donc il est de nouveau visible sur la page d'accueil du site. Et puis donc, À mon seul désir, sorti le 5 avril, à voir de toute urgence, avec donc votre musique. Et puis le voilà, Lucie Borloteau, encore bravo pour ce nouveau projet réussi, voilà, que l'on soutient.
Et je précise que la musique va être on sort un disque, quoi.
Ouais, vinyle peut-être aussi,
et également en version digitale. Donc si jamais vous avez envie de la réécouter pour être dans la nostalgie, l'amour, ou faire des petits numéros chez vous, c'est possible.
Et puis on va se quitter avec un nouvel extrait de la BO, avec une guitare dans ce morceau-là qui est parfaitement en osmose avec le reste de des sonorités. Au revoir, merci beaucoup, à bientôt.
Merci infiniment.